Rosny est né, l'enfant de la naïade. C'était vers la fin du jour. Nous goûtions la fraîcheur sur la terrasse des cèdres. On apercevait au loin les collines rouges et dans un creux le fleuve enveloppé d'arbres. Le soleil touchait déjà les cimes et l'ombre grandissait sur les prairies comme l'eau d'une inondation. Notre hôte, Paul Serrante, fumait des cigarettes à l'opium d'un air rêveur et triste. Au reste, nous étions tous dans un peu mélancoliques. C'était une de ces heures traîtresses et voluptueuses où les hommes soupirent après la présence des femmes. Il n'y avait pas de femmes dans ce séjour de célibataire endurci. Six heures sonnèrent à l'église. Une femme parut, tenant dans ses bras une fillette jolie comme une Astarté enfant, et dont les yeux ressemblaient incontestablement aux beaux yeux de Serrante. Et notre hôte l'embrassa avec une vive tendresse, et joua quelques minutes avec elle, et soupira profondément quand on l'emmena pour la mettre au lit. Nul de nous doutait que la brillante enfant fût la fille, mais chaque fois qu'on l'avait interrogée ou plaisantée là-dessus, il s'était contenté de répondre d'un air énigmatique « Oh, c'est l'enfant de la naïade !» Et tout ce qu'on savait, c'est qu'elle avait été trouvée un matin de juillet, 2 ans auparavant, dans un panier d'osier sur le seuil de la maison. Sans autre signe de reconnaissance qu'un mot inscrit sur une feuille de vélin. Serrante avait jeté sa cigarette. Une barre profonde se creusait entre ses sourcils. Et l'amertume contractait ses lèvres. Il murmura « Ben, il y a des jours où je me demande si cette terre où nous vivons n'a pas été étrangement changée depuis 3 ou 4 000 ans. Par exemple, s'il n'est pas vrai qu'il a existé des oréades, des naïades, des satyres. Oh, quoique les satyres n'étaient autres que de grands singes, interrompit Bedeuse. Peut-être, fit Serrante avec impatience. Aussi les Grecs, tous les montrent-ils laids et velus. Mais les naïades, les dryades, ont laissé des effigies charmantes. Il y a bien des pléthosaures, des mégalosaures, des ptérodactyles, et pourquoi pas des nymphes. La paléontologie. Mais je me fiche de la paléontologie, s'écria Serrante. Qu'est-ce qui me prouve que le squelette d'une naïade soit différent de celui d'une femme? Alors, que peuvent nous apprendre les savants fouisseurs? Oh, si je n'étais pas l'enfant d'un siècle sceptique, je croirais avoir reçu la preuve de l'existence des naïades. Nous dressâmes la tête, plus curieux qu'ironique, avec l'espoir de connaître, enfin de connaître le secret que Serrante nous cachait depuis tant de persistance. Alors il eut un sourire là et reprit. Au fait, puisque samedi, voire ce soir, pourquoi ne pas vois-je pas vous raconter mon aventure. Pouf. Vous m'aiderez peut-être à la éclaircir. C'était en été, il y a un peu plus de 3 ans. J'étais venu au Cèdre. Vous souvenez-vous, avez-vous le souvenir que cet été fut extraordinairement chaud? Les journées étaient aussi insupportables que les nuits étaient sereines et suaves. Aussi pris-je le parti de faire de longues siestes après déjeuner et de ne sortir que le soir. Je fis des promenades fascinantes. Il n'y a pas de doute que la nuit vous met en communion plus intime avec la nature. On voit moins bien, il est vrai, mais comme on sent mieux, comme l'odorat s'affine, comme l'oreille se tend, comme le tact se sublimise. C'est quelques jours après la lune nouvelle que je découvris le lac du Corbeau. Or, je le connaissais par oui dire, mais je ne sais pour quelle raison, je n'avais pas encore visité. Il est au fond de la forêt, enclos de terribles chênes millénaires et de peupliers dont les trois quarts s'effondrent de décrépitude. On se croirait aux âges fauves où l'urus, le sanglier des tourbières et le grand loup tenaient en échec nos sauvages ancêtres. L'endroit me parut délicieux. Je contemplais en extase la lune cornue qui descendait derrière les cimes noires et de longues écailles cuivrées qui ondulaient sur les eaux. Et tout à coup, je vis une forme humaine qui nageait vers la rive, blanche comme la nacre, assombrie seulement à la tête et aux épaules par une immense chevelure bleuâtre. Oh, je n'eus pas le temps de faire de longues réflexions. Les feuilles des nénuphars venaient de s'écarter et une jeune femme se tenait devant moi. Oh, je ne crois pas que les divins sculpteurs grecs aient rien fait de si délicatement beau. Des pieds à la tête, cette femme offrait une succession ininterrompue de grâces. Je compris pour la première fois le nombre extraordinaire de lignes parfaites, de contours rythmiques qu'il faut pour réaliser un beau corps humain. La femme, avec ses grands cheveux humides, rejeté vers la droite, ses yeux couleur de fleuve, imprégnés d'une lumière propre, sa petite tête d'enfant se tenait devant moi sans aucune apparence de trouble, tandis que moi, je tremblais de tous mes membres, saisi d'admiration comme on est saisi de peur. Et après une minute de silence, elle parla. Je ne compris rien du tout d'abord. Mais de vagues souvenirs classiques s'élevant en moi, les souvenirs d'un cancre, j'entendis qu'elle s'exprimait en grec. En grec étrange, à la fois plus âpre et plus doux que notre grec falsifié. De ci de là, quelques mots émergeaient jusqu'à ma compréhension, elle, comme une écume sur le lac. Qu'importait d'ailleurs l'étonnante présence de cette femme dans ce lieu, même où le bon esprit était aussi loin du monde moderne, me remplissait d'une douceur extraordinaire, où le désir se mêlait peu à peu à la fin. J'étendis mes bras, mais je ne saisis que le vide. L'inconnu avait bondi et je la vis disparaître sur les eaux argentines. Je retournai la nuit suivante, agité des sentiments que vous pouvez imaginer. Je n'osais concevoir l'espérance de revoir la naïade. Alors je contemplais, comme la veille, les cornes de la lune au-dessus des peupliers, décrépits, longues spires cuivrées sur les ondes. Un temps assez long s'écoula. La furtive espérance s'évanouissait de plus en plus de mon âme. Je finis par clore les paupières dans un rêve. Et brusquement, l'eau clapota. J'ouvris les yeux et je revis la forme humaine qui se levait sur la rive comme la veille. Elle me tint des propos incompréhensibles comme la veille. Et quand j'étendis le bras, elle disparut dans les fonds. Cela dura 10 jours jusqu'à la pleine lune. Chaque soir, nuit, la naïade réapparaissait, vêtue seulement de son trait de cheveux bleuâtres, et chaque nuit, elle me fuyait au moment où le désir atteignait son paroxysme. Oh, je me résignais, alors bien tristement, à ne la posséder que des yeux. Mais le soir où la lune s'était levée et trouvée face au soleil couché, elle s'attarda davantage. Assise à côté de moi, son petit pied de lys, de soie et d'argent, ce coquillage coquettement agité sur la mousse d'émeraude, une langueur charmante souriait sur sa bouche fleurie et dans ses yeux dilatés. Et quand j'étendis la main, son corps frais ne s'enfuit plus. Cela dura tout l'été, poursuivit Cérante d'une voix profonde. Et durant tout l'été, ce fut une folie de bonheur. Puis, la naïade disparut. Toutes mes recherches pour la retrouver furent vaines. Rien ne me reste d'une joie surhumaine que cet enfant trouvé un jour sur le grand perron et qui seul me donne le goût de vivre. Et maintenant, qui me dira quelle était cette femme? Qui me dira si elle appartient à la même espèce que nous-mêmes?